VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, Eric Manilakiza et Anne Albelton, avec vous en direct de Washington. Vous suivez le monde aujourd'hui, édition du mardi 14 novembre 2017. D'abord le sommaire.
En Centrafrique, l'ONU ouvre une enquête sur de possibles défaillances de casque bleu, membre de sa mission de paix.
Au Zimbabwe, le chef de l'armée dénonce l'éviction du vice-président.
Kampala by night.
Bienvenue à Kampala, une ville qui ne dort jamais.
Vous comprendrez tout à l'heure que les affaires marchent mieux pendant la nuit dans la capitale ougandaise.
Et dernier jour de la tournée de Donald Trump en Asie.
Et ne manquez pas la page sport ainsi que la Minute Éco.
D'abord le journal.
Des dirigeants africains ont appelé à aider leurs États à assurer leur propre sécurité. C'était hier à l'ouverture de la 4e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. D'après le président sénégalais Macky Sall, le risque aujourd'hui, c'est de voir des terroristes vaincus ailleurs chercher des zones de repli en Afrique. Nous reviendrons sur ce forum dans la seconde partie de cette édition.
Au Cameroun, 4 bombes artisanales ont explosé dans la nuit de dimanche à lundi. Sans faire de victimes à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, cette région constitue l'un des épicentres de la crise politique qui secoue la partie anglophone du pays depuis plusieurs mois.
République démocratique du Congo, retour sur le déraillement dimanche d'un train de marchandises de la SNCC transportant des matières inflammables. Cette catastrophe s'est produite dans le village de Bouyofwe. Les secours organisaient difficilement l'évacuation des blessés vers Louboudi. Des témoins affirment que le nombre des morts s'est alourdi. Précision de notre correspondant Narval Nabila.
Après les déraillements du train marchandise de la Société nationale des chemins de fer du Congo au niveau du village Bouyofwe dans les territoires de Louboudi, les secours s'organisent difficilement afin d'évacuer les blessés qui continuent à traîner dans les villages sans soins appropriés par manque de moyens d'évacuation vers Louboudi. Et certains corps sont encore dans les décombres et d'autres sont calcinés. Certains blessés légers ont trouvé les moyens de se faire évacuer sur Louboudi et Kolwezi. Pour les autorités, les bilans officiels provisoires seraient des 33 morts, alors que selon les témoignages des villageois qui ont organisé les premiers secours, il y aurait une quarantaine de morts et une dizaine de blessés. Les bilans pourraient s'alourdir. Le temps est nécessaire au village Bouyofwe à dénombrer les morts et les blessés. Narval Mabila pour VOA Afrique.
La panne d'eau et d'eau courante électrique à Kisangani dans le nord-est de la RDC a suscité des versions contradictoires. D'un côté, la Société nationale d'électricité et de l'autre, des militants ayant lancé un ultimatum. À 2 jours d'un appel à mobilisation, le point avec Solange Nyamulisa.
La crue du fleuve Congo a provoqué l'inondation d'une centrale électrique. Depuis le 9 novembre, les habitants de Kisangani sont privés d'électricité et d'eau courante. La ville abrite près d'un million de personnes. La SNEL, ou Société nationale d'électricité, dont le patron Alain Atundu est porte-parole de la majorité présidentielle, a fait savoir qu'elle avait pris des mesures face aux risques sanitaires et sécuritaires. Il a déclaré que des groupes électrogènes ont été mis en place pour alimenter certains points stratégiques, ajoutant que la distribution d'eau fonctionne depuis dimanche à 100%, bien qu'elle soit rationnée. Les habitants se plaignaient des pénuries et privations. Les jeunes de la société civile appellent au calme et donnent à la SNEL tout au plus 48 heures pour fixer l'opinion sur le rétablissement du courant électrique. Demain, mercredi, est aussi une journée à haut risque car l'opposition et des mouvements citoyens ont lancé un appel à la mobilisation contre le calendrier électoral qui prévoit des élections pour le 23 décembre 2018.
Le département des opérations de la paix de l'ONU a ouvert une enquête sur de possibles défaillances de casque bleu, membre de sa mission de paix en Centrafrique. Les enquêteurs examineront des attaques menées contre des civils par des groupes armés dans des lieux proches de la présence de la MINUSCA. C'est notamment dans les préfectures de Haute-Koto, Basse-Koto, Mbomou et Ombomou. La réponse de la mission de l'ONU à ces événements sera aussi scrutée. Le général béninois à la retraite, Fernand Marcel Amoussou, dirigera cette enquête spéciale indépendante sur des événements survenus entre le 1er mai et le 31 août 2017.
Toujours en Centrafrique, un calme précaire régnait hier dans les quartiers ouest de Bangui après des violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés. C'était des premières violences significatives dans la capitale centrafricaine depuis début 2017.
Crise politique au Zimbabwe, le chef de l'armée lance une mise en garde sans précédent au parti du président Robert Mugabe. Le général Constantino Chiwenga a dénoncé l'éviction du vice-président Abdurrahman Dia.
Le général Constantino Chiwenga a averti le parti au pouvoir, la ZANU-PF, que l'armée pourrait intervenir si ce qu'il considère comme une purge ne cessait pas. La purge actuelle qui vise clairement les membres du parti qui ont été engagés dans la guerre d'indépendance doit cesser immédiatement, a indiqué le chef de l'armée dans un communiqué lu en présence de 90 hauts gradés. Emmerson Mnangagwa, longtemps présenté comme dauphin du président Robert Mugabe, a été démis de ses fonctions de vice-président la semaine dernière après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe. Il s'est enfui en Afrique du Sud. Ce départ forcé a fait éclater au grand jour les rivalités au sein du parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. M. Mnangagwa, qui a reçu le soutien des anciens combattants de la guerre d'indépendance, entretient des liens étroits avec les militaires.
Et les États-Unis ont annoncé hier avoir tué 40 islamistes en Somalie en 4 jours. C'est à la suite de 5 frappes aériennes contre des islamistes Shebab. Le point avec Claire Moré-Gibourg.
3 de ces frappes ont déjà été annoncées dimanche par AFRICOM, le commandement militaire américain chargé de l'Afrique, mais sans précision. Lors d'une conférence de presse hier, le colonel Rob Manning, porte-parole du Pentagone, a précisé que 36 islamistes Shebab et 4 combattants du groupe État islamique ont été tués. Les 5 frappes ont eu lieu au sud et à l'ouest de Mogadiscio, la capitale, et dans la région de Chabel. Les États-Unis ont mené des frappes en Somalie pour la première fois début novembre. Le président Donald Trump a donné son feu vert au Pentagone en mars dernier pour lancer des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre pour soutenir le gouvernement somalien. Les Shebab tentent depuis 2007 de renverser les autorités de Mogadiscio et ont proclamé leur allégeance à Al-Qaïda en 2010. Certains des islamistes Shebab ont récemment rejoint les rangs du groupe État islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dernier jour de la tournée du président Donald Trump en Asie, il achève aujourd'hui un périple marathon qui s'est déroulé sans accroc, mais sans percée majeure et n'a pas dissipé le flou qui entoure la stratégie du président américain dans cette partie du monde.
La chambre basse du Congrès américain a voté sans difficulté hier une loi qui prévoit de réduire les retraites et avantages fédéraux accordé aux anciens présidents des États-Unis. Cette législation doit encore passer au Sénat avant d'être adoptée. Le texte prévoit notamment de plafonner à 500 000 dollars annuels le budget alloué à chaque ancien président des États-Unis. Le républicain Jody Heiss, auteur du projet de loi, estime que le contribuable américain ne devait pas continuer de payer pour la retraite des ex-présidents. Ces anciens dirigeants américains peuvent gagner plusieurs millions de dollars désormais grâce aux livres qu'ils écrivent ou aux discours qu'ils prononcent.
La Maison-Blanche et des dirigeants d'entreprises énergétiques américaines ont défendu les énergies fossiles hier soir à la conférence climat de l'ONU à Bonn. Cette réunion a été perturbée par des défenseurs des énergies vertes.
La chaîne de télévision RT contrôlée par l'État russe a confirmé hier s'être pliée aux exigences des autorités américaines en s'enregistrant en tant qu'agent de l'étranger aux États-Unis. Moscou a promis de répliquer.
La première ministre britannique, Theresa May, entame une bataille parlementaire majeure. Elle profite de la reprise des débats sur le projet de loi destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.
Au moins 53 personnes ont été tuées dans des raids aériens sur un marché d'une localité rebelle dans une zone d'escalade du nord de la Syrie. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les victimes sont essentiellement de civils et des enfants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté aux Philippines la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi à permettre le retour dans son pays des centaines de milliers de Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Le prix Nobel de la paix va s'entretenir aujourd'hui avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Des dizaines de milliers d'Iraniens, épargnés par le puissant séisme de dimanche soir, ont passé une deuxième nuit dans le froid avant une journée de deuil national. Ce séisme a également frappé plusieurs régions irakiennes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et nous retrouvons à New York Jacques Aristide pour l'actualité économique en Afrique et ailleurs. À toi Jacques.
La mission de l'ONU en RD Congo a prêté un groupe électrogène à la régie DSE, l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau, pour l'aider à faire face à une méga panne d'eau et d'électricité dans la ville de Kisangani. La panne est due à un incident technique à la centrale hydroélectrique de Tchopo. Privée d'électricité, la régie DSE n'était plus en mesure de distribuer de l'eau potable aux habitants, dont certains s'approvisionnaient en eau de rivière, s'exposant ainsi aux maladies. Le Niger s'est retiré de l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITI, qu'il avait suspendue fin octobre pour progrès insuffisants. Le ministre nigérien des Mines attribue la suspension au fait que l'ITI s'est mêlé d'une affaire judiciaire au Niger en établissant un lien entre l'arrestation de certains acteurs de la société civile et l'affaire dite de l'Uranium Gate. Il s'agit de la vente présumée douteuse à travers de multiples intermédiaires d'uranium nigérien. Après le sud-coréen Hyundai, l'allemand Volkswagen et Renault, le groupe automobile français PSA va produire à son tour, dès l'an prochain, des véhicules en Algérie dans le cadre d'une co-entreprise créée à Alger avec trois partenaires algériens avec un investissement total de 100 millions d'euros. 1000 emplois directs vont être créés. D'ici 5 ans, 75 000 véhicules Peugeot et Citroën devraient sortir annuellement des chaînes de montage.
Nous passons directement au sport ce matin. Nicolas Pinon, bonjour Nicolas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec le football. La grande surprise hier, l'élimination de l'Italie qui n'ira pas à la Coupe du Monde 2018.
Battue à Stockholm 1-0, la squadra azzurra se devait de battre les Suédois au stade Giuseppe Meazza à Milan. Eh bien, ils en ont été incapables. Coup de tonnerre, score final 0-0, élimination de l'Italie. Depuis 1958, les Italiens avaient été de toutes les Coupes du Monde. C'est donc un énorme coup de tonnerre dans le football mondial. À noter que Gianluigi Buffon, le gardien vétéran italien de 40 ans, a disputé hier son dernier match sous les couleurs de l'équipe nationale.
Maintenant, en Afrique, les derniers matchs aujourd'hui, mais sans enjeu.
Le Sénégal, après la qualification acquise vendredi 2-0 à Polokwane, retrouve l'Afrique du Sud à Dakar. Sadio Mané, l'homme providentiel, tout juste revenu de blessure, est déjà rentré en Angleterre pour rejoindre son club de Liverpool. Les détails avec Amdinsi à Dakar.
Le dernier acte des éliminatoires du Mondial sera posé ce mardi à 19h30 au stade Léopold Sédar Senghor. En effet, Lyon du Sénégal et Bafana Bafana d'Afrique du Sud vont se retrouver pour la deuxième fois en espace de 4 jours. Mais cette confrontation sera un match de gala pour les poulains de Aliou Cissé qui ont déjà composé leur billet pour la grande messe du football continental vendredi à Polokwane. Les poulains d'Aliou Cissé vont profiter de cette rencontre pour communier avec le public sénégalais qui les a accueillis comme des héros. Retenez que ce match se jouera sans Sadio Mané. Le métronome des Lions a été libéré par le staff technique. Il a déjà rejoint Liverpool, mais cela ne devrait pas empêcher aux Lions du Sénégal de viser la victoire pour fêter en beauté cette deuxième qualification historique. Ahmed Insi, Dakar, VOA Afrique.
On rappelle que côté burkinabé à Ouagadougou, les étalons voudront terminer sur une belle note face au coriace requin bleu du Cap-Vert.
Et l'Argentine sans Messi affronte le Nigeria.
L'équipe d'Argentine qui va affronter, vous l'avez dit, le Nigeria en match amical à Krasnodar, c'est en Russie. L'Argentine qui devrait présenter un visage différent avec notamment l'absence prévue de Lionel Messi rentré à Barcelone pour récupérer. Les Argentins se sont entraînés hier à Moscou avant de s'envoler pour Krasnodar qui se situe à 1300 km plus au sud. C'est là qu'ils affronteront la sélection nigériane qui a pris l'avion dimanche depuis Constantine où elle avait été tenue en échec contre l'Algérie, 1-0. Allez Eric, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui Nicolas, Washington Wizards est venu à bout de Sacramento Kings, 110-92. Cleveland Cavaliers a battu in extremis New York Knicks, 104-101. Milwaukee Bucks a pris le dessus sur Memphis Grizzlies, 110-103. Et victoire au bout du suspense, Nicolas. Pour New Orleans, Pelicans 106-105 devant Atlanta. Et c'est tout pour les résultats de la NBA, Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu hier à Dakar. Le président Macky Sall a estimé que les interventions internationales doivent être adaptées aux réalités locales. La ministre française des Armées, Florence Parly, a réitéré le soutien de la France à la force conjointe du G5 Sahel. Idriss Fall, adjoint à Dakar, Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Au regard de la situation sécuritaire qui se détériore de jour en jour dans la région, il faut une coopération régionale la plus élargie possible. Le Sénégal évolue en dehors du G5 Sahel, mais aujourd'hui fait partie des pays qui sont les plus contributeurs pour les forces militaires africaines présentes au Mali. Je crois que le G5 Sahel est un cadre performant qui commence à travailler, mais auquel il manque des moyens, ce qui nous renvoie à l'éternelle situation de pays africains complètement dépendants des pays occidentaux pour leur défense, et pourtant ces mêmes le pays avait refusé l'Africom dans les années 2008 et aujourd'hui on est revenu aux mêmes options militaires qui consistent à faire appel à des puissances étrangères.
Le Niger vient d'autoriser d'ailleurs les Américains à opérer des drones armés. Est-ce que ce n'est pas aussi une preuve que les armées africaines, particulièrement en Afrique de l'Ouest, ne sont pas assez fortes ou pas assez formées pour lutter contre le terrorisme?
Aucune armée du monde n'est formée pour lutter contre ces forces-là et pour mener cette guerre asymétrique où il n'y a ni ennemi visible, ni front déterminé. Au-delà de cela, la crainte sur le continent, c'est la surmilitarisation à outrance de nos régions qui pourrait être contre-productive par rapport aux objectifs initiaux, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Les interventions militaires n'ont jamais pu régler la question du terrorisme. Je pense qu'il faut des solutions structurelles à la base, des solutions prenant le problème à la racine, avec la bonne gouvernance, de l'éducation et de la prévention. Il s'agit d'une bataille idéologique et dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu une Kalachnikov battre ou vaincre une idéologie.
Donc le terrorisme a de beaux jours devant lui alors?
Dans ce cadre du dialogue et d'échange entre les pays du Nord et ceux de l'Afrique, il faudrait rompre avec ce que j'appelle ce conflit de perception du conflit. Il y a un hiatus aujourd'hui entre les conceptions internationales d'un conflit qui se passe au Sahel et les solutions qu'on propose et la perception que les populations elles-mêmes en ont. Aujourd'hui, la préoccupation du terrorisme est là, elle habite tout le monde parce que nous sommes malheureusement devenus une même communauté internationale des vulnérables. Nous sommes aussi bien vulnérables à Paris, Londres, qu'à Tombouctou et à Gao ou à Washington. De ce fait, il y a une coopération internationale qui doit se faire, mais elle doit être saine et doit être réfléchie, prenant en compte les réalités locales pour que véritablement l'on ne tombe pas dans les travers d'interventions à contre-coup et ces contre-coups-là qui pourraient être dommageables pour l'objectif commun de sécurité collective.
Comment se fait-il que le Sénégal ne fasse pas partie de ce groupe qu'on appelle le G5 Sahel et encore moins la Côte d'Ivoire qui a été victime d'attaques terroristes?
C'est une hérésie historique géographique. Le Sénégal fait partie de cet ensemble-là. Sur la transfrontalité, on voit qu'aucun pays ne peut développer une stratégie nationale s'il ne prend pas en compte la nécessité de coopérer ensemble. Ce G5 Sahel-là fonctionne, il lui faut des moyens, mais je pense que la réflexion devrait être poussée beaucoup plus loin. Certains parlent même de G5+5 pour englober beaucoup de pays africains qui ont été frappés à partir des frontières maliennes qui, hélas, ne sont plus seulement un problème pour le Mali.
Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Et RDC, polémique autour de la délocalisation du quartier général de la police à Machu Picchu. Ce quartier connaît des manifestations répétitives contre le président Joseph Kabila. Et depuis l'annonce du commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kiungu Banza, les avis sont partagés, des pour et des contre, comme l'explique Narval Mabila.
Insécurité, banditisme, manifestation contre les régimes, éternel quotidien des habitants du quartier Machu Picchu. Pour faire face à cette situation, le commissariat provincial du Haut-Katanga a installé son quartier général dans le quartier Machu Picchu. Selon le général Paulin Kiungu Banza, c'est une mise en garde très sévère envers les bandits et les incivils à la population aux amis de la paix de collaborer avec la police d'Ixit. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, qui a la gestion d'une partie du quartier Machu Picchu, appuie cette décision. Gustave Ngoy s'explique.
Il y avait des inciviques qui voulaient troubler à chaque instant l'ordre public au niveau de Machu Picchu. En fait, la police a pris quand même ses responsabilités, c'est pour l'intérêt public. Il a plu au commissaire général de la police de déplacer son cabinet ou son quiche et le déposer au niveau de Machu Picchu pour sécuriser la population et leur bien. En ce moment dont je vous parle, je sais que Machu Picchu, ça va, c'est calme.
Du côté de la société civile au Katanga, l'inquiétude est grande face à l'installation du quartier général au quartier Machu Picchu, comme s'exprime Maître Calois, coordonnateur.
Nous sommes très préoccupés par le fait qu'un quartier général installé au niveau de Machu Picchu. Cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre la police ainsi que la population. Le fait d'avoir ce QG suscite toujours des inquiétudes au sein de la population que nous représentons. Voilà pourquoi nous demanderons qu'on envisage une autre politique, parce que chaque fois, à chaque instant, il y a toujours de mouvements qui entraînent certaines paniques dans le chef de la population.
Dans les rues du quartier Machu Picchu, la méfiance est totale face à l'installation du quartier général de la police, comme certains s'expriment à notre micro sous anonymat pour raison de sécurité.
Je suis content du fait que la place sur qui j'ai ici, ça va quand même nous soulager des abus des policiers. Parce que d'habitude, s'il y a des troubles au niveau de Machu Picchu, les policiers se donnent à des actes. Je déplore souvent. Ils arrachent les passants leur téléphone, ils leur vident les poches et cela ne m'arrange pas du tout. Faire du désordre ici, soi-disant les membres de l'IDPS, ce ne sont pas les résidents de ce quartier. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs.
Ne pas faire les manifestations inutiles par rapport de brûler les pinets et tout qu'on sort. Maintenant, et il vient ici pour commencer à taper les gens, gifler les gens. Il fait que c'est seulement à 19h. Tu essaies un peu de passer de l'autre côté du Machu Picchu ici, même à l'arrêt, même sur les nourris ici, on gifle les gens pas mal. Il lit le français, donc lui il parle une autre langue. Donc c'est difficile de se comprendre, même tu essaies un peu de montrer ta carte en disant que tu es congolais. Lui ne croit pas à ça, il s'agit seulement de te gifler. Et selon la langue que moi j'ai entendue, je peux imaginer que ce sont les Rwandais. On peut...
Ici à Machu Picchu, les habitants compriment leur colère devant les bouts de canons des forces de sécurité. Lubumbashi, quartier Machu Picchu, Narval Mabila, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Quelques 700 000 habitants du Somaliland étaient appelés aux urnes hier pour élire leur président. C'est le troisième scrutin du genre depuis que cette région somalienne a proclamé son indépendance en 1991. Les deux grandes priorités de l'heure pour le Somaliland, c'est la reconnaissance internationale, mais aussi la création d'emplois. Et pour analyse, Ekiabadou a joint à Hargeisa Robert Kluger, observateur indépendant.
Dans cette région de la Corne d'Afrique, qui est tellement mouvementée avec des problèmes et des violences partout, en Éthiopie, en Érythrée, au Kenya et évidemment dans le reste de la Somalie, je pense qu'il est très important aussi de comprendre que c'est une expérience unique et qu'il faudrait, en tant que communauté internationale, on devrait être en mesure de soutenir cette indépendance et la reconnaître en fait finalement. J'ai pu observer aujourd'hui les élections, donc c'est les élections présidentielles. J'ai pu observer d'abord que ça s'est très bien passé. Je suis allé dans la capitale Hargeisa et aussi en dehors dans les zones rurales. Jusqu'à 60 km, j'ai observé, disons, dans une vingtaine de sessions différentes, comment ça se passait. Beaucoup de Somalilandais très heureux. Et j'ai observé un fort taux de participation aussi. J'ai regardé tous les dossiers de bureaux de vote. Et surtout, une impression que voilà, qu'on est arrivé à une certaine maturité politique en Somaliland en pouvant organiser les élections dans l'ordre.
Par rapport aux résultats, vous avez l'impression que les résultats vont tomber en toute transparence, puisque vous dites que vous avez eu l'impression qu'il y ait de l'ordre et qu'il y ait eu une forte mobilisation?
Je pense qu'on peut compter sur une forte transparence. C'est aussi par rapport aux élections précédentes en Somaliland, où on a pu observer, par exemple, les dernières élections présidentielles, elles ont été perdues par le président sortant avec seulement 250 votes. Et pourtant, il a tout de suite annoncé que voilà, qu'il acceptait le résultat des élections et qu'il laissait la place à son successeur d'un autre clan et d'un autre parti. Le président sortant, Silagno, il ne s'est pas représenté. C'est quelqu'un d'autre de son parti, quelqu'un d'un autre clan aussi. Il peut en tout cas s'attendre à un temps de pouvoir assez dans l'ordre.
Alors, c'est un pays jeune avec 70% de la population qui a moins de 25 ans. Quels sont les grands défis auxquels devra s'atteler le vainqueur?
Eh bien, les grands défis sont d'abord économiques. Il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles en Somaliland, donc le pays doit compter sur les investissements internes et aussi externes. Après, d'ordre politique, il y a vraiment le problème de la reconnaissance de ce pays, même s'il fonctionne depuis 1991, ça fait maintenant 26 ans. Il fonctionne comme un pays indépendant, mais cependant, il n'est pas reconnu en tant que tel. Ça pose plein de problèmes. Il n'est pas associé, par exemple, à la Banque mondiale, à toutes les institutions internationales, et n'accepte pas vraiment cette indépendance.
Robert Kluver, observateur indépendant, joint à Hargeisa, capitale du Somaliland.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans la capitale ougandaise, certaines parties de la ville s'endorment et d'autres se réveillent. Dans certains quartiers, on ne dort pas du tout. Kampala est plus dynamique la nuit que pendant la journée. Il y a moyen de se faire de l'argent et c'est un style de vie à apprécier. Un de nos correspondants s'est rendu en Ouganda pour parler aux entrepreneurs qui travaillent tard dans la nuit afin de découvrir les défis, les opportunités et d'en apprendre davantage sur leur mode de vie. Le reportage est signé Mugume Davis Gwankaringi. Il est présenté par Gabi Chérubin d'Orsil.
Bienvenue à Kampala, une ville qui ne dort jamais et où le moyen de transport le plus facile est la moto, connue localement sous le nom de Boda Boda. Judas Saint-Amon pilote l'un de ces motos-taxis et il nous dit qu'il gagne plus d'argent la nuit que durant la journée.
Les gens qui se déplacent pendant la journée épargnent beaucoup, donc ils ne paient pas beaucoup pour les Boda Boda. Ceux qui viennent la nuit sont là pour le plaisir. Ils viennent pour dépenser. Si tu leur dis combien tu veux, par exemple, d'ici jusqu'à quelque part, ils payent parce qu'ils sont venus pour dépenser. They have come
to spend. Dans la banlieue de Makindye, nous rencontrons Tasha, une jeune femme de 26 ans qui aime faire la fête toute la nuit avec ses amis. Good music is
fun for me. La bonne musique me fait plaisir et j'espère que tout le monde aime la bonne musique. Nous allons là où il y a de la bonne musique comme autospa.
Ce n'est pas du tout facile parce que beaucoup d'entrepreneurs dépendent des fêtards comme Tasha. Il y a donc de la concurrence. Ali Matovu se montre satisfait.
Ce travail nous aide, moi et ma famille, mon père, ma mère et mes enfants. Je fais quelques boulots chez le boucher pendant la journée à Kalerwe et la nuit je viens travailler ici.
L'un des quartiers les plus animés de Kampala la nuit est Wandegeya. Ici, vous trouverez une variété d'entreprises qui vendent des chaussures, des vêtements, de la nourriture et du café. Écoutons Altaf Charaniya.
This is a busy place here.
Wandegeya est un endroit très animé. Nous avons beaucoup de choses que les gens aiment ici la nuit. Ils viennent se détendre ici après le travail. Les affaires sont lentes dans la journée parce que les gens sont au travail. Dans ce café, la plupart des gens viennent la nuit.
Ce n'est pas toujours la joie ou l'occasion de faire de l'argent quand la nuit tombe à Kampala. Parfois, des voleurs à main armée s'invitent au programme. Dans cette ville, quand certains quartiers s'endorment, d'autres se réveillent. Et c'est le début d'une vie nocturne très animée, génératrice de revenus, mais aussi parfois dangereuse.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum se met à l'heure du football. Ce jeudi, tous les qualifiés africains pour la Coupe du Monde 2018 en Russie sont désormais connus. Sénégal, Nigeria, Égypte, Maroc et Tunisie. Quelles seront leurs chances? Qui peut créer la surprise? Comment combler les lacunes notées du côté africain lors des derniers mondiaux ou autres compétitions internationales? Tels que le non-paiement des primes et le manque d'organisation des fédérations africaines. Que s'est-il passé pour ces élites du foot africain comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana? Et pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manirakiza à Washington vous remercie. de votre oreille attentive. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique et à très bientôt.